Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, cette fête de Notre-Dame des Sept Douleurs nous rappelle, c'est un fait très important, que Notre-Dame n'est pas simplement mère du Christ, elle est aussi mère de son corps mystique. Donc elle est mère de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est elle qui a donné son humanité à notre Seigneur, mais aussi mère de l'Église. C'est pour ça, c'est un peu bizarre dans la liturgie, mais c'est justement la raison pour laquelle il y a deux fêtes de Notre-Dame des Sept Douleurs dans l'année. Il y a celle d'aujourd'hui, le 15 septembre, qui rappelle que Notre-Dame est mère du corps mystique du Christ, mère de l'Église. Et il y a aussi une fête de Notre-Dame des Sept Douleurs qui n'est pas à date fixe et qui a lieu le vendredi qui suit le dimanche de la Passion, juste avant la Semaine Sainte. Et là, pour rappeler qu'elle est mère du corps physique du Christ. Donc, puisque Notre-Dame va suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa Passion, elle va aussi suivre l'Église catholique dans sa Passion. Et donc là, on touche à deux perles extraordinaires de la couronne de Notre-Dame. La première, c'est la perle de Marie médiatrice de toutes les grâces. Et la deuxième, c'est la perle de Marie, co-rédemptrice du genre humain. C'est-à-dire que notre Seigneur a voulu passer par sa mère pour nous donner les grâces. Il a voulu que sa mère aussi, à cause de ça, participe à ses propres souffrances de la Passion. C'est pour ça qu'on dit que Marie est non seulement mère de l'Église, mais aussi reine des martyrs. Elle est reine des martyrs alors qu'elle n'a pas physiquement souffert. Elle n'a pas été touchée, si vous voulez, pendant la Passion, comme son divin Fils l'a été. Et ceci doit vraiment nous faire réfléchir. Il ne faut pas oublier qu'avant de mourir sur la croix, la dernière chose qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous donner sa mère. Il nous a donné sa mère, c'est ce qu'il a dit à Saint Jean, « Fils, voici votre mère », et à la mère, il a dit « Mère, voici votre fils ». Saint Jean venait d'être ordonné prêtre la veille au soir, il avait été ordonné consacré évêque aussi, le jeudi saint en soi, et donc l'Église catholique est confiée à notre Sainte Vierge Marie. En gros, notre Seigneur dit à sa mère, « Vous vous êtes occupé de mon corps physique pendant 33 ans, vous allez maintenant vous occuper de mon corps mystique, de l'Église ». Et cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie est donc nécessaire au salut. De même qu'on ne peut pas se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ, de même qu'on ne peut pas se sauver sans utiliser cette participation à notre Sainte Vierge Marie, parce que justement, les grâces passent par elle. Les pères de l'Église disent que notre Sainte Vierge Marie est comme le cou de l'Église. Donc il fait passer de la tête au corps toutes les afflux qui viennent de la tête. Alors on peut se demander pourquoi Notre-Dame est appelée Notre-Dame des Sept Douleurs. Bon, parce qu'elle, toute sa vie, va être une participation aux douleurs de son divin Fils. Qu'on soit le voir dès le début. Dès le début, lorsqu'elle elle va commencer déjà par souffrir en voyant que son époux, Saint Joseph, n'a pas reçu la visite de l'ange. Et donc lorsqu'elle revient de sa visite à sa cousine Sainte Élisabeth, son époux voit qu'elle attend un bébé. C'est toutes les douleurs de Saint Joseph qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Eh bien, c'est le début de la vie douloureuse de Notre-Dame. Ensuite, il va y avoir la nativité, le fait qu'il soit obligé d'avoir son enfant dans le froid, l'obscurité, la froidure de la grotte, c'est encore une souffrance. Après, on continue avec la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reste au temple de Jérusalem à 12 ans, encore une douleur de Notre-Dame, et puis après la fuite en Égypte, encore une, et puis toutes les douleurs de la Passion. Alors on peut se poser la question, dans le corps mystique du Christ, quelles sont les choses qui font le plus souffrir notre Sainte Vierge Marie? Bien, l'évangile du jour explique très bien les choses. Prenez l'évangile du 14e dimanche après la Pentecôte, ça explique remarquablement bien la chose. Qu'est-ce que nous dit l'évangile? L'évangile nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il adorera l'un et haïra le second, ou il haïra le premier et adorera le second. Donc, ce qui fait surtout souffrir la très sainte Vierge Marie, c'est de voir que beaucoup de ses enfants cherchent justement à ne pas choisir, à vouloir choisir un maître qui n'est pas celui qu'il devrait choisir. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc, si vous voulez, il y a trois sortes de gens dans le monde d'aujourd'hui. Il y a ceux qui choisissent notre Seigneur Jésus-Christ, qui choisissent d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ et de haïr le démon, ça c'est l'Église catholique. Il y a ceux qui ont choisi définitivement d'adorer le démon et de détester notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est l'enfer. Et il y a ceux qui prétendent adorer les deux à la fois. Adorer notre Seigneur Jésus-Christ et adorer le démon. Ça c'est l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II, c'est ça. Plaire aux deux maîtres à la fois. Plaire à la fois à notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois à son pire ennemi, à savoir le démon, Lucifer. C'est ceux qui sont, comme on dit, catholiques le dimanche de 10h à midi, puis qui dans la pratique, dans la semaine, vivent comme des païens. Ça court les rues. Eh bien, la plus grande douleur de la Sainte Vierge Marie, c'est justement celle-là. La douleur de voir que ses enfants, beaucoup de ses, pas tous, mais beaucoup, c'est la plupart de ses enfants, cherchent à plaire à la fois à notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois à son pire ennemi, le démon. On est obligé de faire un choix parce que justement, on ne peut pas asservir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et Mammon, l'Évangile. Mammon, c'est l'argent, c'est le monde. Donc, il y a un choix à faire. Ou je suis notre Seigneur Jésus-Christ et je choisis de garder en main l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est écrit? Pauvreté, chasteté, obéissance, qu'on appelle les trois conseils évangéliques. Ou au contraire, je choisis de m'enrôler, de m'engager dans l'armée du démon, et à ce moment-là, je vais porter l'étendard du démon. Sur l'étendard du démon, qu'est-ce qui est marqué? Liberté, égalité, fraternité. Et le rêve, justement, de l'Église de Vatican II, c'est de joindre les deux choses. C'est-à-dire de marier ensemble les principes de la Révolution et les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix et l'argent. C'est pas possible. Et ceux qui ont les premiers, si vous voulez, essayer d'amener dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, ces idées, ce qu'on appelait les catholiques libéraux des années 1830, ils ont été condamnés par le pape Grégoire XVI. C'est l'encyclique Mirarivos. Et ça a toujours été le grand rêve de marier ensemble des principes qui ne sont pas juxtaposables. On ne peut pas les mettre ensemble, c'est absolument impossible. Je rappelle Monseigneur Lefebvre qui avait cette phrase très forte que je cite souvent en sermon parce qu'elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Il dit, quand on marie ensemble, fait marier ensemble des gens qui ne sont pas supposés être mariés ensemble, au lieu d'avoir des enfants, on a des bâtards. C'est ce que disait Monseigneur Lefebvre. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on marie ensemble les principes de notre Seigneur Jésus-Christ et les principes du démon, les principes de la Révolution, on a des bâtards au lieu d'avoir des enfants. On était bien obligé de faire un choix où on place notre Seigneur Jésus-Christ comme centre de notre société. À ce moment-là, on a une société christocentrique, une société théocentrique centrée sur Dieu, ou au contraire, on met le démon, l'homme, au centre de la société. On a une société humaniste, société humanistique, une société homocentriste centrée sur l'homme. Et comme la nature a horreur du vide, dès que vous enlevez le bon Dieu d'une société, quelqu'un qui vient prendre la place. Le premier qui vient prendre la place, c'est l'homme. Et l'homme, il prépare le terrain. Une deuxième personne qui va venir prendre la place, c'est le démon lui-même. Et ça, il faut comprendre ça. Une fois qu'on a compris ces choses-là, on comprend par voie de conséquence qu'on est obligé de faire un choix. La vie du chrétien sur la terre, c'est une vie de combat, justement, parce on est obligé de faire un choix. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et dans le même évangile que j'irai à la fin de la messe, donc l'évangile du Saint Matthieu, chapitre 6, du 14e dimanche après la Pentecôte, il est dit que. Il y a à la fin de l'évangile, je retrouve le texte. Excusez-moi, je retrouve le texte exact. Il dit à la fin de l'évangile, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et là encore une fois, il y a trois sortes de gens sur la terre. Il y a ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est les catholiques. Il y a ceux qui cherchent d'abord le royaume du démon et sa justice, ça c'est l'enfer. Puis il y a ceux qui cherchent un peu les deux à la fois, et on retrouve la même idée pour l'Église de Vatican II. Notez que notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas qu'il faut pas s'occuper des choses matérielles. Il dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il faut avoir une hiérarchie des choses importantes, hiérarchie des valeurs. L'âme est plus importante que le corps. C'est le corps qui est au service de l'âme et pas l'inverse. Donc, si on commence à adorer le corps, l'âme est totalement oubliée. Il faut donc que l'âme soutienne le corps, puisque l'âme, on dit, c'est la forme du corps, c'est elle qui va donner la vie au corps. Et donc, il faut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper aussi du corps. Il faut comprendre que les biens spirituels, les biens de l'âme, passent avant les biens du corps. Et c'est toute la différence qui existe entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II est une Église au service de l'homme, et parce que l'Église de Vatican II est une Église au service de l'homme, elle va s'occuper du corps avant de s'occuper de l'âme. Au contraire, l'Église catholique, qui elle est une Église au service de Dieu, est une Église qui va s'occuper d'abord de l'âme avant de s'occuper du corps. Maintenant, c'est pas un péché de s'occuper du corps. Il faut s'en occuper, bon Dieu vous demande aussi de vous occuper de votre corps, il faut se nourrir, il faut le vêtir, il faut s'occuper des médicaments par notre corps, mais avec une hiérarchie des valeurs. D'abord le royaume des cieux. Et c'est quand on inverse les choses et qu'on adore, qu'on commence par adorer son corps, qu'on oublie complètement le bon Dieu et on a le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui. Alors quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion de tout ça, c'est que si la Très Sainte Vierge Marie a dû porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il doit supporter bien des avanies de la part de ses propres enfants ici-bas sur la terre dans l'Église catholique. Eh bien, nous aussi, qui sommes par le baptême des membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, il faut qu'on porte nos souffrances. La croix n'est pas simplement réservée à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Sainte Vierge Marie. La croix, elle est aussi pour les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Marie sont les enfants du bon Dieu. Et à partir du moment où on est enfant de Marie, on est enfant de Dieu par le baptême, eh bien, il va falloir qu'on participe aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est quelque chose de bien pénible qu'on a une tendance à vouloir éviter, mais c'est pas possible d'éviter ça. Pourquoi? Parce que la voie qui mène au paradis, c'est ce qu'on appelle la voie royale de la Sainte Croix. C'est la passion. Et Dieu demande à ses enfants de participer à cette passion. Cette passion de son divin fils. C'est une chose qu'on a bien, bien du mal à comprendre, parce qu'on veut bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais à condition de suivre sur la croix. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de venir manger avec lui pour aux noces de Cana, tout le monde est volontaire, hein? Pas de problème. Mais quand notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle le vendredi saint pour nous demander de nous donner un petit coup de main pour porter sa croix, alors il n'y a plus personne. Eh bien, bon Dieu nous demande deux choses. Parfois, on nous demande des choses faciles, parfois, on nous demande des choses beaucoup plus difficiles. Mais ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas donner. Il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne peut pas nous donner une croix qui est trop lourde pour nous. À chacun sa croix, à chacun les grâces nécessaires pour porter la croix. Il y en a qui ont les croix très lourdes, il y en a qui ont les croix moins lourdes. Et mon Dieu, c'est ce qu'il fait. Et il faut arriver à comprendre ces choses-là. Et souvent, on se plaint de nos croix et on ne comprend pas que ces croix sont des moyens tout simplement pour aller au ciel. Plus la croix est lourde, plus le chemin qui monte au ciel est rapide. Hein. Je vous donne un petit exemple qui n'est pas très connu. Je donne souvent quand j'explique ces choses-là pendant les retraites. C'est dans la vie de. Après la vie. Après la mort de saint Thomas de Canterbury, un grand martyr anglais. Et donc, son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage extraordinaire en Angleterre, au sud de l'Angleterre, près de Londres. Et beaucoup, beaucoup de catholiques allaient en pèlerinage au tombeau de saint Thomas de Canterbury. Et un jour, un aveugle anglais, qui habitait dans le sud de l'Angleterre, veut faire son pèlerinage à Saint-Thomas de Canterbury. Et il demande, au cours de ce pèlerinage, il demande la grâce de retrouver la vue. Et donc, il part avec un ami qui le guide, parce qu'il est aveugle, il ne voit rien. Il va sur le tombeau de Saint-Thomas de Canterbury, et puis il demande la grâce du miracle, de retrouver la vue. Et le bon Dieu lui accorde le miracle. Il retrouve la vie, la vue, pardon. Et alors, il est tout content parce qu'il peut de nouveau voir. Il reste 3-4 jours. 3-4 jours en action de grâce au tombeau, puis il rentre chez lui. Cette fois-ci, il n'a plus besoin de son ami pour le guider parce qu'il peut voir par lui-même. Et en redescendant vers le sud de l'Angleterre, il passe par Londres. Une ville bien pourrie, qui était déjà bien pourrie en son temps. Et en arrivant à Londres, traversant Londres, évidemment, maintenant qu'il voit, il se rend compte qu'il voit des horreurs qu'il n'a jamais vues auparavant. Parce qu'avant, il était aveugle, il ne voyait rien. Et il commence à ressentir des tentations qu'il n'avait jamais ressenties auparavant, tout simplement parce qu'avant, il ne voyait rien. Alors il commence à paniquer en disant, mais maintenant, je vois beaucoup plus de tentations qu'avant, donc beaucoup plus d'occasions de péché qu'avant. Il fait demi-tour, il revient sur le tombeau de saint Thomas de Canterbury, et il dit à saint Thomas, au bon Dieu, vous m'avez rendu mes yeux, merci beaucoup, mais si c'est maintenant plus difficile pour moi d'aller au ciel avec mes yeux que sans mes yeux, est-ce que vous pouvez pas faire un deuxième miracle pour que je perde la vue immédiatement? Il a perdu la vue tout de suite. Et il est revenu chez lui, cette fois-ci de nouveau avec son guide, avec plus de joie dans son cœur que la deuxième fois, parce qu'il avait compris que son aveuglement, sa cécité, c'était son moyen de salut. Oui. Et ce sont c'est un exemple qu'on donne dans la vie de, dans l'histoire de tombeau de saint Thomas de Canterbury. Donc c'est un peu notre histoire à nous. Il faut dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Ce que je veux, c'est sauver mon âme. Ce que je veux, c'est aller au ciel, parce que je suis sur la terre pour ça. Je suis sur la terre pour aller au ciel. Et donc, si pour aller au ciel, il faut porter des croix, parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans croix, eh bien, le bon Dieu me donnera les grâces nécessaires dont j'ai besoin pour porter ma croix. Donc, ne pas se décourager. Il y a une autre histoire que je raconte quand j'explique ces choses à vos enfants. Mais, comme les adultes, c'est des grands enfants. Cette histoire, elle marche aussi pour les adultes. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jeannot, et puis il a une croix comme tout le monde. Il n'est pas content parce qu'il trouve que sa croix est trop lourde. Alors, il va voir l'enfant Jésus, et puis il râle. Il dit, voilà, vous êtes trompé de croix, la croix que vous m'avez mise sur mes épaules, elle est beaucoup trop lourde, j'en veux une autre. Alors le bon Dieu lui explique qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs dans le poids des croix qu'il choisit pour chacun d'entre nous, et que c'est la croix qu'il lui a portée pour aller au ciel. Et je ne veux pas écouter. Alors, bon Dieu, dans sa bonté, lui dit, ben écoutez, voilà, vous avez derrière l'église, là, il y a un énorme champ avec des milliers de croix. Vous jetez votre croix au milieu, vous en choisissez une. Vous allez choisir vous, comme ça, vous ne râlerez plus. Un petit jeune est tout content, il va dans son champ, il passe la journée à essayer toutes les croix qu'il y a dans le champ. Il y en a qui sont très lourdes, qui sont très légères. Et puis, vers le soir, la nuit commence à tomber, il finit par trouver une croix qui lui plaît. Alors, il la ramène, il la met sur ses épaules, il vient tout content voir l'enfant Jésus. Et il dit, voilà, c'est cela que je veux. Et le bon Dieu regarde en souriant Jeannot en lui disant, vous n'êtes pas très malin, vous la regardez de près cette croix? Alors l'enfant dit, bah non, mais elle me plaît bien, c'est celle que vous aviez ce matin. Et l'enfant n'avait pas fait attention, il avait finalement repris la même croix que lui avait donné bon Dieu. À ce moment-là, il a compris ben, que bon Dieu fait très bien les choses. Quand bon Dieu nous donne une croix, il nous donne les grâces pour porter la croix. Donc il faut savoir demander à la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est Notre-Dame de cette douleur, justement qu'elle nous aide à porter notre croix, que nous ne soyons pas de ceux qui veulent servir de maître à la foi. Le drame de l'Église moderne, le drame de l'Église de Vatican II, c'est ça, vouloir servir le bon Dieu et le monde en même temps. Et ça, c'est pas possible. Parce que nous ne peut servir de maître à la foi. Alors demandons justement les grâces de lumière dont nous avons besoin, les grâces de force aussi dont nous avons besoin, non seulement pour porter nos croix, mais pour porter nos croix sans trop nous plaindre. Parce que si on porte notre croix avec une face de bulldog toute la journée, c'est pas comme ça qu'on fait plaisir au bon Dieu. Le bon Dieu nous demande de porter notre croix, mais il demande de porter notre croix avec résignation. Il nous demande même, ça c'est pas facile, de porter nos croix avec un sourire. Parce que la croix nous fait les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens me demandent quelle est la différence essentielle qui existe entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique, je dis l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix. C'est pour ça que la première chose qu'ils ont cherché à détruire dans l'Église de Vatican II, c'est la messe. parce que la messe est le renouvellement non sanglant du calvaire. Alors demandons justement à ce que notre vie tout entière soit centrée sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'on a compris ça, on comprend tout. On comprend tout et on comprend que notre Seigneur Jésus-Christ, du haut du ciel, il nous demande, il nous demande de porter notre croix, même si elle semble difficile. Je vais venir par un troisième exemple, qui est un exemple historique que j'explique aussi souvent dans les conférences que je peux donner à droite ou à gauche. C'est dans la vie de Melanchthon. Melanchthon, c'est un disciple de Luther, un bandit. Melanchthon avait une femme maman, qui est une vieille maman, qui était catholique. Sa vieille maman, elle est complètement perdue avec toutes ces histoires de changement de l'église catholique, d'église protestante. Un jour, elle demande à son fils, mais de ces deux églises, qu'il y a là, la catholique et la protestante, laquelle est la meilleure? Et Melanchthon, qui est un apostat du catholicisme, répondit à sa mère, pour vivre, la meilleure c'est la protestante. Et pour mourir, il vaut mieux la catholique. Il avait bien compris. Ça l'a pas empêché de mourir dans l'apostasie. Il avait parfaitement compris. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Une église sans croix ou une église avec une croix? L'église sans croix, elle mène à l'enfer. L'église avec croix, elle mène au ciel. Donc prenez la deuxième, prenez l'église justement, qui est fondée sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix qui sauve, la croix qui nous élève, la croix qui pointe justement vers le ciel pour nous montrer l'endroit où nous devons un jour tous arriver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.